Nous sommes très fiers de la réception que vous avez réservée au podcast La Fièvre des Sucres et c'est avec un grand bonheur que nous terminons la première saison avec un grand bâtisseur du domaine à Séricole. Le podcast La Fièvre des Sucres est un projet développé par l'équipe de la chaîne YouTube Le Goût du Territoire qui vous offre tout près de 100 reportages passionnants au sujet de la sériculture, de la foresterie et plus encore. L'invité de cet épisode hors série est Sylvain Patry, qui exploite avec sa famille plus de 260 000 entailles dans la municipalité de Saint-Athanas, au Bas-Saint-Laurent. Marco et Jean-Étienne discutent avec lui des bouleversements du milieu acéricole qu'apportent toutes les innovations récentes dans l'industrie, ainsi que de la participation encore sous-valorisée de la production de sirop d'érable dans l'économie du Québec et de ses régions. Cet épisode de La Fièvre des Sucres vous est présenté grâce à la collaboration de la Débâcle, qui offre la seule tôte en acier inoxydable qui optimise le transport et la conservation, ainsi que plusieurs autres produits innovants. Ainsi que Click2Go Elite, qui vous offre une solution pratique et sécuritaire pour toujours avoir vos outils à portée de main en forêt. Et la participation de Maple Works, une entreprise d'aménagement forestier et d'installation d'érablières qui vous accompagne dans le succès de votre saison des sucres. Bonne écoute de ce 11e épisode du podcast La Fièvre des Sucres.
Alors, bienvenue, M. Patry, à la microbrasserie La Souche, dans notre région, ici, à Stoneham et Tewksbury. Je suis heureux parce que c'est une région que vous connaissez, vous circulez dans le coin, puis vous savez que c'est une région pour laquelle moi, je milite, je veux que ça se développe. Fait qu'à chaque fois que j'attire l'attention de quelqu'un comme vous ici, je me dis, on augmente nos chances. Aujourd'hui, on est avec mon collègue Marco Gilbert du podcast, mais c'est plus que mon collègue du podcast, parce qu'on partage ensemble une mission d'enseignement au collégial. C'est Marco qui m'a donné la fièvre des sucres, parce que c'est lui le tannant qui m'a laissé bouillir chez eux pour la première fois, puis c'est là que j'ai pogné la maladie. Alors, moi, j'aimerais parler avec vous beaucoup. On se connaît, on s'est rencontrés quelques fois. Le sujet qui me parle le plus, c'est le développement économique, l'enrichissement collectif grâce à la sériculture. Mais avant, je veux laisser la parole à Marco parce que je sais qu'il porte, lui, un questionnement auquel vous allez pouvoir répondre, qui va nous permettre d'explorer plein d'idées qui préoccupent plein de gens parce qu'on le dit souvent, la sériculture, depuis 10-15 ans, ça change à vitesse grand V. T'sais, on est passé du folklore, puis là, c'est la NASA quasiment, puis tous ces mondes-là se côtoient. Ça génère plein de questionnements, des espoirs, mais aussi des inquiétudes.
Ouais. Moi, je vais commencer par une anecdote.
Oui.
Moi, mon père a perdu son travail en 1986. Il travaillait dans les mines d'amiante, parce qu'on vient de ce coin-là. Là. La mine au village a fermé, puis là, il a perdu sa job. Là, ben, il y a eu une période de flottement où il cherchait un travail. En 89-90, moi j'avais 14-15 ans à peu près, là il s'est trouvé un travail, il était content parce qu'on avait les rabières déjà. Mais là, il a réussi à se trouver un travail à la banque de sirop, c'est comme ça qu'il appelait ça. Alice Broughton avait été choisi à ce moment-là pour être un des 5 ou 6 sites où il vendait le sirop d'érable, là, puis il allait entreposer le sirop d'érable.
Pour la fédération.
Oui, c'est les débuts dans le fond du plan conjoint à ce moment-là.
Est-ce que c'était vraiment la fédération déjà ou c'était comme un...
Ça s'appelait pas comme ça, il appelait ça banque de sirop, c'était comme ça, c'était le nom là, mais je sais pas si...
À ce moment-là, il y avait eu comme des contrats de données, puis c'était une compagnie X qui avait eu la charge d'emmagasiner ce sirop-là, puis d'entreposer.
Ça avait plus ou moins bien été à ce moment-là, faut pas se le dire, faut pas se le cacher. Là. Puis il y a beaucoup de producteurs qui avaient vendu leur sirop, puis finalement, ils n'avaient pas été payés de cette époque-là. Ça avait fini un peu en catastrophe, puis mon père, quand j'étais revenu, puis il jasait de ça, il avait dit... C'est à cause des terres de la couronne que ça a viré de saut. Là, moi, je comprenais pas trop. 14-15 ans, qu'est-ce que tu veux dire par là?
La couronne de qui?
Ben là, c'est quoi les terres de la couronne d'abord? Puis ensuite, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Fait que moi, j'étais resté un peu avec cette idée-là. C'est à cause des terres de la couronne. Puis je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Mais là, avec le temps, j'ai fini par comprendre que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il y avait des gros producteurs qui s'ajoutaient de plus en plus. Puis qu'à un moment donné, ben, ça faisait un volume de sirop qui était trop important par rapport au marché.
Vous, la période que vous parlez, c'est probablement des années 89-90.
Oui, exactement.
C'est arrêté, c'est le début du plan conjoint.
Ouais.
Le plan conjoint dans la sériculture ont fêté leur 35e année cette année. Puis moi, j'ai commencé en 90, ma première année de production. Puis c'était public quand même. Vous dites que le monde arrivait, mais ça fait peut-être, moi, de ma famille, mon père, ça fait, il est décédé, ça fait 4 ans, mais ça fait plus de 80 ans qu'il fait du sirop, c'est un public. C'est que c'est pas aujourd'hui quand même. Non. Puis, en réalité, c'est vrai, les années 90, on parlait du RCPEC, c'était là. C'est que dans le fond, je pense que c'était les caisses populaires avaient investi plusieurs millions d'argent pour payer les producteurs. Puis, à un moment donné, quand c'est venu difficile, ils ont retiré l'argent. Puis là, les producteurs sont ramassés devant à peu près rien. Ça a été des années. Et moi, j'ai commencé, là. Écoutez, le 2A, on avait 95 cents à l'année. Puis quand c'était une grosse production, nous autres, vu qu'on est au Bas-Saint-Laurent, bien, on était les derniers à produire. C'est que bien souvent, ils nous offraient à peu près rien. Ça, c'est l'air, là, des rouleaux de barils. Je ne sais pas si c'est un terme que j'avais entendu.
C'est les rouleaux de barils,
ouais, eux autres, là, c'est, on va dire, une affaire, c'était le free-for-all, là, dans ce temps-là.
Ouais.
Mais ça a été pas tellement une période, là, glorifiant. Puis là, il y a eu beaucoup de polémiques au sujet, vous savez, de la fédération, vous savez, les acheteurs de sirop, les ci, les ça. Puis il y a beaucoup de petits producteurs, par exemple. Puis moi, j'ai rien contre les petits producteurs. Un producteur qui a 1 000 entrées, qui n'a 10 000, qui n'a 100 000, moi, c'est un de mes amis, c'est un producteur.
Il participe.
Beaucoup de petits producteurs disaient, hey, la fédération, ça profite juste aux gros producteurs. Ouf, boys. J'ai dit, là, j'ai de la misère un petit peu à suivre ton raisonnement. Parce que moi, mon raisonnement, c'est que moi, quand ça l'a planté, on va dire le mot planté, le RCPEC, puis tout ça, nous autres, on s'est revirés de bord. On s'est ramassé deux, trois grosses érabières. Puis on a trouvé du monde qui achetait notre sirop. On supportait notre sirop, on avait un prix supérieur. Mais quand on a intégré la fédération, là, c'est tout le monde est traité au pied égal. Que tu aies 100 entailles ou tu en aies 100 000, c'est un vote. Quand tu vas à une AGA, mon vote est aussi bon que le tien, même si j'ai plusieurs fois le nombre d'entailles que toi. Ça ne vient pas dire que ça va me favoriser moins qu'il y ait une fédération. Moi, je serais plus à porter que ça vient protéger les petits producteurs. Qu'il y ait le même prix pour son sirop, peu importe la région où ce qui demeure. Ça, tout le monde est traité égal avec la fédération. Puis moi, j'ai tout le temps dit, on est-tu mieux d'avoir, d'être payé, un exemple, à 80 % de 2,5 $ ou d'avoir 100 % d'une 1,5 $ de notre sirop?
Ouais.
Quand on parle l'offre puis la demande, hein, c'est un gros printemps, le sirop baisse. Quand c'est un gros vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est que dans le fond, là, puis le sirop qu'on ne vend pas, on ne le perd pas. Il va dans une banque. Puis à un moment donné, bien, cette banque-là, c'est un peu un effet de levier. C'est quand on a une petite saison, c'est un peu une assurance qu'on va aller piger dans ce sirop-là pour compléter notre contingent.
Il y a de l'incompréhension quand même là-dedans. Je regarde dans le bleuet, les producteurs se font avoir année après année. Ils se font avoir, ils se font rosser. Ils n'ont aucun. C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir du groupe. Puis après, on nous dit la fédération, c'est une affaire quasiment de communiste. Puis de... Mais il n'aurait pas des grosses institutions comme la vôtre. Les banques ne prêteraient pas à des.
Bien,
la stabilité... centre de bouillage qu'on a développé ici à Tewksbury. Là, la banque ne serait pas là s'il n'y avait pas de fédé.
Aujourd'hui, regardez, on va juste donner l'exemple avec l'effet de ce qui se passe aux États-Unis puis tout ça. L'incertitude en affaires, c'est à peu près la pire chose qui peut arriver, que ce soit en production, que ce soit dans n'importe quoi. La fédération, ça l'a amené à un prix pondéré. Puis, vous savez, les acheteurs sont ralliés. Ça doit faire la 4e convention de 3 ans qui a été signée sans passer par la Régie des marchés agricoles. Ça ne veut pas dire que... on ne veut pas dire qu'on est 100 % d'accord, mais quand tu as des ententes signées, nommez-en des choses qui ont des ententes signées autant réciproquement que ça. C'est assez rare. Hein.
Mais on a un avantage pour négocier, parce qu'il n'y a pas de chicane dans la cabane.
Ben, ça, c'est bon.
Puis Marco, toute cette question-là aussi de la tradition.
Oui, ben, c'est ça. C'est que par rapport à... Je pense qu'au-delà des terres de la couronne, dans les années 90, c'est tout le développement du secteur acéricole avec la production un peu plus industrielle, l'avènement des séparateurs de plus en plus qui s'est développé, ce qui a permis à ce moment-là d'agrandir la taille des entreprises acéricoles. Avant ça, ce qui limitait souvent l'exploitant, c'était je vais en entailler juste 1 000, à un moment donné, je manque de temps pour.
Ah oui, il faut que je me couche.
Mais là, l'arrivée des séparateurs des années 90, c'est jumelé aussi à ce contexte-là, je pense. Du développement d'entreprises acéricoles un peu plus. Moi, je me souviens, dans mon coin, vous avez peut-être connu, il y avait Jean-Marie Laliberté, qui était il vendait de l'équipement, là. On avait acheté de lui dans les années 85-6, là, quand on avait équipé. Et lui, je pense qu'il y avait 10 ou 15 000. Ça faisait bouillir sur 3 chiffres. Il y avait des piscines en avant de la cabane à sucre, puis il ramassait l'eau un peu partout. Il n'y a pas de séparateur dans ce temps-là.
Bien, les séparateurs ont arrivé au début des années 80, plus dans le milieu des années 80-90. Moi, l'année que j'ai acheté 20 000 en train, moi, 90, la personne qui avait n'avait pas de séparateur. Ouais. Ça avait pris comme 300 courbes de bois pour dire, je sais pas, que ça n'avait aucun sens. Puis, vous savez, l'huile à chauffage n'était pas tellement dispendieuse dans ça là, mais au prix que c'est aujourd'hui, il n'y a aucune. Ça serait impossible de rentabiliser une entreprise s'il n'y aurait pas des concentrateurs.
Je pense que c'est ça qui a fait aussi que cette période-là, il y a eu une période trouble où il y avait beaucoup d'offres parce que là, il y a beaucoup de producteurs qui se sont lancés dans des entreprises un peu plus grandes.
C'était facilitant. Là.
Parce qu'il y avait l'arrivée du séparateur dans cette période-là. Là.
Puis ça, c'est vrai ici au Québec, puis c'est vrai autour des États-Unis. À un moment donné, les États-Unis, ils se grillaient, puis eux autres ne sont pas limités comme au Québec avec un système de contingentement. C'est un système de contingentement, c'est de produire selon les ventes. Ça ne donne à rien de produire. Vous savez, cette année, un exemple, en 2024, les ventes de sirop d'érable, ça a été 165-166 millions, puis c'est produit environ 225 millions de litres de sirop. En un jour, il va dire, ouais, c'est beaucoup de sirop qui ne sera pas vendu. Oui, mais notre banque de sirop était quasiment vide. Là, hein? L'année dernière, on avait eu vraiment une mauvaise année. Puis, avoir une banque de sirop, là, quand tu as une petite saison, ça permet de ne pas perdre un marché. En 2007-2008, on a perdu des marchés. Puis, c'est perdre des marchés, c'est long à reprendre. Je ne sais pas. C'est la pire affaire, hein? Avoir du sirop en masse, ce n'est pas un problème, mais n'en manquer, c'est vraiment. Ça amène là, des problèmes sur plusieurs années avant de récupérer. C'est vraiment pas long. Puis, les États-Unis, bien, c'est un peu le message. Moi, j'avais été à une rencontre, ils appellent ça la SMI. C'est en réalité le plus gros rassemblement de. À Séricole, au Nouveau-Brunswick, puis au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, c'est-à-dire toutes les universités des États-Unis, Saint-Asselle, le Québec, qui se réunissent une fois par année. Puis le message qu'on voulait envoyer au Québec, aux Américains, c'est d'installer à partir des ventes de sirop. Mais que les ventes augmentent, installons-le. Essayons d'avoir une sorte de coercition entre nous autres. Là. Installons... intelligemment. Si les ventes augmentent de 5 %, bien, augmentons notre nombre d'entailles de 5 %. Puis là, bien, tout le monde va bien vivre. On n'aura pas de surproduction. C'est une question, en cours. Moi, je pense que ça important.
C'est une grosse différence de mentalité. J'entendais encore hier un économiste qui disait c'est la rencontre de deux visions de l'économie, ce qu'on vit au Québec et aux États-Unis en ce moment. Justement, cet ajustement-là pour dire bien, inondons pas les marchés. C'est pas l'idée d'être plus gros. Bien, parce qu'à un moment donné, on respire avec des stocks. Puis... c'est la famine, à un moment donné, hein? Il y a un certain contrôle. Ça, c'est culturel un petit peu, je pense, aussi au Québec quand même.
Les grandes entreprises, à quelque part, c'est sûr que les grandes entreprises acéricoles ont contribué à développer l'industrie acéricole. C'est pas des érablières de 1000 ou 2000 en tard qui auraient fait que, tu sais, aujourd'hui, pour avoir du financement, pour acheter des érablières, puis tout le développement au niveau des équipementiers, etc., ça a contribué à développer une industrie acéricole au Québec, le fait d'avoir des grandes entreprises. Mais les plus petites entreprises, pensez-vous qu'avec le temps, qu'ils vont être appelés à disparaître, ces petites entreprises-là?
Vous dites les grandes entreprises, hein, mais moi, je ciblerais un peu plus votre question en ciblant les clubs d'encadrement technique. Nous autres, au Bas-Saint-Laurent, on a un club d'encadrement technique qui ramasse au-dessus de 220 producteurs. Il y en a des gros producteurs, puis non des petits. Puis ces clubs-là, il y en a un peu partout au travers du Québec, dans toutes les régions. Puis ces clubs-là, ils sont très, très proactifs. Nous autres, dans le club, écoutez, l'alcool isopropylique 70-30 pour accepter de laver notre tubulure, c'est nous autres qui l'avons emmené. Puis à cette heure, vraiment, tout le monde l'utilise. Les chalumeaux, un exemple, qu'on désinfecte avec les bouchons. Là. Vous savez que l'alcool... c'est le club. Puis les autres clubs ont arrivé avec d'autres projets. Il y a tellement de projets en innovation. Moi, j'ai refusé d'être sur un projet, exemple, là, pour l'antimousse. Vous savez, l'antimousse, on en met parce que ça gomme. Une année, ça peut détériorer un peu la propriété, la typique du sirop d'érable. Ça peut être un problème. C'est-à-dire qu'il existerait des problèmes, des procédés mécaniques.
Sans produit, sans
ajout. Sans un produit. C'est que, moi, j'aurais pu participer, mais je vais faire cette partie-là à l'interne avec un consultant. Mais l'Université de Sherbrooke, avec le Centre Acercole, tous les intervenants, c'est presque 1 million là, en recherche et développement juste là-dessus. Puis moi, bien, c'est sûr qu'une grosse entreprise, une entreprise comme moi, je suis capable de dégager des sommes d'argent pour faire de la recherche et développement, pour faire de l'innovation. C'est sûr qu'une entreprise de moins n'a pas les liquidités nécessairement. Mais en passant par les clubs, je ne sais pas, en se réunissant, moi, je pense que... Puis vous savez, l'année passée, j'ai quand même investi près de 500 000 $ juste pour la filtration du sirop d'érable, filtrer l'eau d'érable. Mais j'étais allé chercher un bon montant là, en subvention au niveau de la MRC, au niveau du CRD. Mais l'implication que j'ai pour aller chercher ces choses-là, il faut que je partage ça aux autres producteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs que sans nécessairement investir, que par le bras de levier-là, on pourrait dire, bon, pour bénéficier de ça.
Mais pensez-vous que les petites érablières, à terme, avec toutes les normes et les standards qu'il faut avoir maintenant dans les cabanes à sucre, sont appelés à disparaître? Les plus petites érablières, tu sais, comme je donnais l'exemple là, tantôt, là, j'ai un bout de tuyau à mettre en stainless, mais moi, ce bout de tuyau-là, j'ai 2000 érables pour le...
La parole, il y a comme deux choses. Hein. Quand vous dites à un petit producteur, un moment donné, il va avoir le choix. Est-ce que je produis pour une vente à la ferme ou est-ce que je vais produire, par exemple, pour être avec la fédération? Quand tu vends à la ferme, tu n'es pas nécessairement régi avec les normes californiennes. C'est-à-dire que là, vous pouvez garder votre érablière en autant que vous vendez en petits contenants, par exemple, une canne en bas de 5 litres.
Ouais.
5 litres. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas nécessairement... Mais entre vous puis moi, je pense que si vous avez une panne qui est soudée au plomb, je pense qu'aujourd'hui, avec le souci de la santé puis tout, c'est préférable de changer cet équipement-là. Mais entre autres choses, tout changer votre tubulure, un exemple qui aurait du brass ou n'importe quoi, qui est un peu moins pire tant qu'à moi, bien, vous avez toujours le choix, je parle des petits producteurs, d'avoir une vente à la ferme puis vous n'êtes pas régi par la fédération en ce moment.
Ouais, ouais. Et tu parles des normes aussi, je pense, on pense à le revêtement intérieur de la cabane.
Oui.
C'est un produit qu'on bouille, que ce soit en planche en bois ou que ce soit en plastique, on le bouille, on le filtre. Après ça, l'idée qu'il voudrait quasiment nous faire porter des sarraux puis des filets, puis on chauffe au bois, il y a des graines partout, mais on filtre encore ce produit-là. Je pense que ce que Marco t'amène, c'est peut-être pas perte de compétences, mais la perte de fun puis de tradition aussi.
Oui, bien moi, c'est un peu ça derrière, à un moment donné, dans l'industrie du lait, il y avait une beurrerie puis une fromagerie au bout de chaque rang. Puis on ramassait les bidons en remontant dans le rang. Puis on allait à la fromagerie ou à la beurrerie puis on transformait. Là, de plus en plus, ce que je vois, moi, dans le rang chez nous, c'est des citernes qui passent puis qui voyagent l'eau d'érable dans des centres de bouillage parce qu'on va aller développer ce secteur-là dans un environnement alimentaire. Ça, je le comprends. Mais à terme, tu sais, ce qu'on vend encore comme le sirop d'érable, c'est le folklore, c'est la famille, c'est la tradition, c'est être autour de l'évaporateur. Mais quand on se retrouve dans un centre de bouillage avec des évaporateurs électriques, puis on n'est plus du tout dans ce contexte-là, mais c'est encore cette image-là de la tradition qu'on veut vendre. Là.
Vous avez, dans ce que vous dites, il y a quand même quelques questions, il y aurait quelques réponses. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, je suis certifié Écossais, Biosuisse. J'ai été certifié Naturelaine, puis en plus, je suis carboneux. Puis moi... Produire un sirop goûteux, c'est un peu ma priorité. Vous savez, chaque entreprise peut avoir un peu son choix d'entreprise. Vous savez, il y en a une année, moi, c'est pour, exemple, aller chercher le plus de revenus pour prendre ma retraite. Puis ça, je respecte ça, c'est un choix d'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que, moi, vous savez, j'ai une relativement grosse entreprise, puis... La qualité de mon sirop, même moi, j'aimerais ça avoir un sirop avec une appellation, exemple, le sirop d'érable, la vallée de la Rivière-Noire de Saint-Athanas. Mais ça fait partie de mon entité d'entreprise. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on est une grosse entreprise, comparé à une petite, qu'on ne peut pas avoir les mêmes valeurs là-dessus. Moi, en tout cas, je partage ces valeurs-là à 100%. Puis pour revenir, vous savez, comparer le lait, on s'entend que le lait, là, c'est très, très... c'est très, très restrictif au point de vue de l'habillement. Puis tout ça, on n'est pas rendu là dans les érablières. Les érablières, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne voudraient pas qu'on ait, exemple, une sorte de tôle qui serait comme rouillée, puis que ça viendrait contaminer le sirop. Puis ce qu'ils veulent beaucoup et tout, c'est qu'un exemple, si vous mangez, puis que vous amenez ça à relève évaporateur, qu'il y ait des choses qui, au point de vue, pourraient nuire à l'agent, qui pourraient nuire aux personnes qui vont goûter ce sirop. Ça, je pense que c'est important de faire la distinction.
Oui, c'est ça. Mais il reste encore beaucoup de folklore dans la production de sirop d'érable.
Il faut le garder, ça.
Il faut le garder. Mais c'est ça. Mon dilemme dans lequel je me retrouve moi, aujourd'hui, quand je ne me verrais pas chez nous dire OK, c'est trop de dépenses de faire bouillir mon eau d'érable. Je m'installe un pot séparateur en stainless puis j'appelle quelqu'un qui vient ramasser mon eau. Moi, ça serait la perte d'une partie de moi-même parce que je me dis, je travaille pour voir ces érables-là, puis c'est comme le produit fini. Là. J'aurais l'impression de ne pas achever le travail que je fais pendant toute l'année.
Si j'en reviens à votre question de bord, Puis je vous conseillerais de dire pourquoi pas avoir, par exemple, un concentrateur qui concentre à 30. Pourquoi pas en avoir un qui est à 8 degrés Brix, puis avoir un évaporateur qui serait un peu plus petit, puis qui pourrait runner au bois, puis avoir les mêmes choses, avoir une sorte d'entre-deux, vous comprenez?
Est-ce que c'est pas possible de penser que... Moi, je comprends les questions que se pose Marco, parce que, tu sais, c'est lui qui m'a appris, je suis allé chez eux, je connais la relation avec son père, je vois bien, tu sais, que je connais son histoire, puis quand t'es petit gars, puis tu cours de l'autobus pour aller faire les sucres, ça finit par t'habiter de façon très profonde, puis identitaire, puis de voir que ça change, bien, c'est toujours inquiétant, c'est sûr et certain. Puis Marco, il est prof d'histoire. Fait que, tu sais, qu'on se souvienne un petit peu de ce qui était avant, c'est sûr que ça le concerne beaucoup. Moi, je le comprends. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une petite cabane comme ça. Tu sais, je fais entre 400 et 500 livres de sirop par année. C'est tout petit. Moi, c'est des vacances. Là. Je parle à des plus grosses entreprises là, qui me disent, puis c'est chez vous, tes sucres. Je dis, ouais, mais moi, c'est un voyage dans le temps des sucres. Tu sais, ma cabane est pensée pour que le soleil rentre à 4 heures. Puis c'est du luxe, là. Moi, c'est la vie de chalet que je fais. Tu sais, c'est du plaisir. Mais pourquoi un producteur comme Marco, je pense que c'est ça que vous sous-entendez, pourrait pas se dire, bon, ben, j'osmose à 30, je vends une grande partie de mon eau, mais je m'en garde à 8. Puis au lieu d'avoir mon 3,5-15, je sais pas qu'est-ce que tu as comme important, hein? 3,5-12, ben, je me prends un 2x6. Puis je continue à bouillir les samedis avec ma famille, j'ai un petit bulletin réfrigéré, puis je la poursuis, la tradition, pour moi. Puis j'accepte que financer ma tradition, financer mon activité, bien, c'est de vendre la majorité de mon concentré ailleurs. Puis je ramène ça à plus petit. Puis peut-être que je suis un peu moins plombier, parce que toi, chez vous, tu sais, je veux dire, c'est la même passion, c'est la même affaire tout le temps. Mais tu sais, tu vois bien que chez nous, on est plus dans le pain doré que dans le changement de fitting sur la... Tu sais, moi, j'écoute, je parle avec les gars du podcast, on a un petit partage Messenger, on jase, puis des fois, je dis, hey, oui, c'est vrai, moi, mon relâcheur, est-tu correct? J'en ai pas de relâcheur. J'étais à gravité. Tu sais, fait que il y a peut-être ce plaisir-là que Marco découvrirait. Je sais pas si c'est ça que vous sous-entendez. Dis, ben, ramenez-vous donc la tradition à un niveau familial, puis... accepter d'être une business aussi à côté?
Ben c'est ça. Je pense que c'est moi de concilier les deux. Moi, j'ai jamais été dans l'excès. J'aime bien être dans la base du milieu puis essayer de chercher le meilleur. Vous savez, quand on parle, je vais changer peut-être le sujet, mais du livre de transfert technologique en agriculture, c'est des ingénieurs, c'est des conseillers. Eux autres vont aller chercher le maximum. Mais moi, je parle tout le temps du côté pratico-pratique. Côté pratico-pratique, des fois, on est mieux dans l'essai. Prendre combien de notre entreprise puis d'aller chercher le meilleur selon les besoins de ton entreprise. Mais moi, il y a une chose que je tiens à dire. Vous savez, moi, c'est une passion pour la sériculture. Ça fait comme... J'avais 7-8 ans quand que mon père avait des chevaux. Puis il faut avoir du plaisir à faire du sirop d'érable. Si vous avez, par exemple, 2, 3, 4 000 en taille puis que vous travaillez 15-20 heures par jour puis que, tu sais, année, là... c'est beau faire du sirop, c'est beau, mais il faut se donner des conditions pour avoir du plaisir à le faire. Puis à un moment donné, bien, si tu n'as plus de plaisir à le faire puis que tu n'as pas une certaine rentabilité, tu te ramasses avec des problèmes financiers, je ne suis pas sûr que là, vous atteignez une qualité là, parce qu'il faut avoir du plaisir à faire du sirop d'érable. Moi, c'est mon terme. Il faut être du plaisir à faire du sirop d'érable. Puis il faut que tu le fasses dans des heures normales, pas dans des heures là, que ça n'a aucun sens.
Moi, j'avouerais que dans mes heures, c'est surtout la nuit que je fais bouillir, mais ça, c'est parce que j'ai deux jobs en même temps. Là. Ça fait qu'à un moment donné, à ma retraite, j'aurai le temps de faire bouillir deux jours.
Mais vous savez, l'automatisation, ça vient comme défaire un peu les choses traditionnelles. Mais aujourd'hui, l'automatisation, ça améliore beaucoup la qualité de vie du monde. Hein.
Oui.
On parle, tu sais, là, 5-6 ans, tu sais, on parle de satellite Starlink, peu importe. On n'avait pas ces technologies-là. Aujourd'hui, on l'a. C'est qu'au travail, vous pouvez quand même faire des choses. C'est quand vous arrivez, ça va réduire votre journée de travail sans perdre votre évaporateur puis faire vos choses plus traditionnelles.
Mais moi, j'ai réussi à en mettre un certain nombre de choses. Là. Je suis quand même pas pire là-dessus. Mais tu sais, on revient un peu à l'investissement. Actuellement, mon eau, je ne suis pas capable de monter plus que 10. J'ai une membrane. J'aimerais ça, des fois, me sauver un peu de temps et être capable de monter mon eau à 15. Mais si j'ajoute mon nouveau poteau ou mettre sur mon séparateur à 7 ou 8 000 piastres, ben, c'est encore toujours le même dilemme dans lequel je me retrouve. Puis j'aurais le même poteau si j'avais 5 000 en taille que si j'en avais 2 500. Si je suis comme d'un entre-deux.
Oui.
J'ai le même équipement que 2 500 que si j'en avais 5 000, mais j'en ai juste 2 500 payé à dépense. Fait que c'est toujours cet entre-deux-là. Puis là, ben, tu dis, OK, je vais monter à 5 000, mais là, tu tombes à 5 000, on est peut-être un peu moins dans le plaisir parce que là, on est rendu un peu trop gros, parce que là, on se développe autre chose. Là. Fait que c'est toujours une spirale dans laquelle on se retrouve tout le temps. Là.
Moi, je vous comprends très bien. Hein. Puis vous n'êtes pas le seul qui me parlait.
C'est un questionnement
courant. C'est un question que j'entends souvent. Moi, ce que je peux dire, c'est que les concentrateurs, c'est le cœur d'une Arabie moderne. Ah ouais. Si tu n'as pas ça au Bissot, on veut d'autres choses. Puis ce que je pourrais dire et tout, c'est que... Comment je dirais ça donc? Non, ben c'est ça. On peut pas... Ah, souvent, je dis aux producteurs qui me posent la question, regarde, il faut que tu aies des choses à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Si tu dis, dans l'idée, tu savais, vous venez de dire, on va s'acheter un poteau qui coûte 7 000-8 000 $, mais dans votre tête, il ne faut pas vous dire que c'est 8 000 $ qu'il faut que je... OK, il faut que je le donne, mais il faudrait que vous l'imaginez que j'ai 10 ans pour le payer, que ce 8 000 $-là représente 800 $ par année, plus... Je ne sais pas si vous voyez ma façon de...
Oui, on va essayer d'expliquer ça à ma blonde aussi.
Non, mais vous comprenez.
C'est... Mais je pense qu'il est plus en changement qu'il arrive à l'exprimer, parce que, dans le fond, Marco, il fait des choix que moi, je trouve très... de compromis aussi, parce que lui, il a fait construire... Je lui ai présenté le monsieur avec qui j'ai construit ma cabane à sucre en pièce sur pièce, monsieur Donald Ouellet, puis il a fait une belle cabane traditionnelle, mais moderne. Tu sais, il est plus de compromis, je pense, qu'il arrive à le dire lui-même, parce qu'on rentre là-dedans, c'est un système de production moderne, mais l'ambiance est traditionnelle, puis il a fait un chalet locatif qui est adjacent à la cabane. Fait que moi, j'ai confiance, Marco, que tu vas réussir à l'atteindre, oui. Ton compromis de plaisir production, mais en même temps, je comprends vraiment qu'il est soucieux de ça, parce que c'est un observateur, puis c'est un observateur conscient, je l'ai dit tantôt, il enseigne l'histoire. Fait que c'est sûr qu'il y a une conscience là, qui n'est pas celle de la moyenne des ours, pour dire, des fois, les choses changent, puis on ne peut pas retourner en arrière. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, on parlait du lait tantôt. Des gens qui sont dans le lait et qui se sont robotisés, ils ont le temps d'aller souper avec leur famille à cette heure. Mais il y a ça encore la même passion? T'sais, moi, j'ai mon conseiller à Séricole de notre région, il me dit, il y a quelque chose de spécial dans l'érable. Tu sais, on est un peu des chercheurs d'or, ça va-tu couler cette année? Là? Ça va-tu se perdre à un moment donné avec trop de modernité? Il dit, dans le lait, j'en vois pas des gosses qui ont le feu derrière demain. Il dit, ça appartient encore à l'univers de la sériculture. Alors, comment on va le préserver? Moi, je trouve vos suggestions intéressantes, puis c'est sûr que j'ai confiance, parce que je suis allé chez vous, puis je l'ai vu que la passion des sucres est là. J'ai mangé, vous avez un service de repas pour vos employés, puis l'érable est mis en valeur, puis tu sais, c'est... Mais la question que je vous posais tantôt avant qu'on commence, le groupe, là, qui est plus des financiers, là, ou le fonds d'investissement qui achète, là, eux autres, comment on va faire pour leur enseigner ça collectivement, les valeurs des sucres? Comment on va faire? Ils vont-tu durer? Ces investisseurs-là qui mettent ça, s'ils n'ont pas la passion des sucres, ils voient ça juste comme un business... C'est-tu des business qui sont à vendre dans une couple d'années? C'est comment on va faire pour passer la passion? Vous avez connu les chevaux, lui aussi. Et lui, il m'a donné la fièvre. Mais qu'est-ce qu'on va faire collectivement pour ces investisseurs-là, leur donner la fièvre des sucres?
Bien, ces investisseurs-là, bien souvent, c'est pas eux autres qui vont exploiter l'entreprise.
OK.
C'est que s'il arrive, un exemple, il engage un directeur général, il engage une personne, il faut que ça soit une personne qui soit engagée, qui ait la passion. C'est elle qui va transmettre ça à ses employés. Puis là, on voit beaucoup des travailleurs étrangers qui arrivent. Mais les travailleurs étrangers, ils ont quand même, c'est du monde, ils sont habitués à travailler dans les champs, qui travaillent dur. Puis, tu sais, ils ont un contexte des fois que c'est pas le même langage que nous autres. Ils vont parler l'anglais, l'espagnol. Mais c'est des bons employés. Puis ces employés-là, ben, ils connaissent rien dans la sériculture, mais une fois que tu leur as montré, c'est du monde qui sont assidus à leur travail, qui sont fiables, puis pourquoi pas leur donner le goût du sirop d'érable, leur donner le... Puis eux autres, ils trouvent ça passionnant, travailler dans les érablières, hein. C'est quand même... C'est de leur transiger ça. Puis tantôt, ben, un peu ce que je disais, c'est que ceux qui ont des... qui vont là justement pour l'argent, c'est pas eux autres qui vont être... Puis moi... Un flash que j'ai de même, un problème que je trouvais que j'avais, vous savez, c'est toute la tuyauterie de Stanley dans mon centre de brouillage. J'ai dit, maudit, je ne voulais plus passer d'eau. J'en voulais plus. L'eau arrive d'un silo en stainless, puis ça sort juste quand on la voit un peu dans l'évaporateur. Puis, c'est que ce que j'ai fait, là, partout, ce que je pouvais avoir accès, j'ai mis des visuels, des vitres, pour voir arriver l'eau si l'eau est moins belle, pour essayer de...
Ouais, pas figurer. Voir l'évolution. Voir un peu l'évolution durant la saison.
C'est ça. Ouais. Ça fait que ça, c'est des coûts supplémentaires, mais moi, je dis, ah non, il n'y a pas de coût supplémentaire. Je veux voir ce qui se passe.
L'évolution de la saison.
Je me rappelle tellement, j'avais les chenilles de Saint-Gallon quand j'avais 10 ans, puis on vidait ça dans la tonne en arrière du cheval. On voyait l'eau, on la bouillait, on mangeait de la tire, on prenait un petit peu de réduit dans une tasse, puis il ne faut pas perdre ça, là, c'est important.
Moi, je vous écoute parler les deux, là, puis comme enseignant aussi, je me dis, pourquoi il n'y a pas plus d'activités dans nos écoles? T'sais, si nos jeunes, ils le voyaient, puis on les en mettait des chaudières un peu autour de l'école, puis on leur faisait vivre ça, bien, quand ils deviendraient administrateurs d'un centre de bouillage, partons stainless, bien, il y aurait le feu secret à l'intérieur. Ouais. Moi, je trouve que ça manque un peu quand même. Puis j'en vois même dans ma région ici, je pense au Mont-Saint-Sacrement, ils ont 4000 entailles. Faut que je me dis, vas-tu prendre une année sabbatique pour aller le pousser derrière les aider à se développer quelque chose? Mais ça me s'en prendrait dans nos écoles.
Oui, c'est drôle que tu dises ça, parce que dans les années 90, à toutes les années, je recevais l'école primaire. Puis l'exercice que je faisais là, année après année, il faisait toute la queue. Puis on partait de l'entrée, de la chute. On suivait la chute, on suivait le main, ça arrivait dans le réservoir, ça passait dans le séparateur, ça allait dans l'évaporateur. C'est que ça, c'était un exercice que je faisais là, toutes les années, puis j'avais beaucoup de plaisir à le faire avec mes enfants.
Ça mérite d'être peut-être relancé un peu ces activités-là. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ce qu'on parle vraiment de plus de développement économique, si ça a répondu à tes questions, ça te relance. Moi, je pense qu'on peut avoir encore espoir, Marco. Ouais. Puis c'est bon de conserver ces petites craintes-là. Quand on a peur de rien, on devient dangereux. D'avoir peur de perdre ça, c'est pas mauvais. Mais
les valeurs traditionnelles, là, écoutez, c'est important, il faut les garder. Puis là-dessus, je suis 100% d'accord avec vous.
Alors, si ça vous convient, moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu à deux niveaux, c'est-à-dire d'une façon macro. Moi, je vous l'ai dit tantôt, c'est un éveil pour moi de réaliser que c'est vrai, l'enrichissement, ça vient quand on accueille des touristes ou quand on exporte. Là, il y a de l'argent neuf qui arrive au Québec. Puis dans le sirop, c'est 85% qu'on exporte à l'extérieur. On fait partie d'une démarche d'enrichissement collectif. Ça, c'est clair. Mais vous, vous êtes capable d'en parler au niveau macro, mais aussi au niveau micro de votre communauté. Ben, ce n'est pas une grosse communauté, ça faut le dire. Là. Ici, je trouve que c'est une petite place, Tonam, on est 10 000 quand même. Chez vous, 307, 308?
307, 310 à peu près.
On va dire 310. Puis vous avez une belle histoire à nous conter. J'aimerais ça qu'on parle de la revitalisation de votre patelin. Puis à travers ça qu'on parle justement de développement économique, parce qu'il y a encore de la place, je pense, pour éduquer le grand public, puis leur faire comprendre que c'est... Il y a une contribution, 1,2 milliard au PIB, c'est pas banal. C'est plus une histoire de fondrant puis de gambot à vache, les sucres.
Là, vous touchez un sujet qui me touche personnellement. Vous savez... nous autres, à cette attanance, on recule peut-être de 15-20 ans, ils parlaient de fermer l'école. On avait perdu notre magasin général, on a perdu notre poste à essence. Ça allait pas bien, cette attanance. Tu sais, l'industrie du bois, le bois était tout coupé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre qu'il pousse. Ça fait que là, nous autres, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup investi. On a beaucoup investi. Je parle de moi et puis les érablières. Puis, vous savez, on a réussi à garder notre école. J'ai trouvé d'organiser un tournoi de golf pour ramasser 4000 piastres parce qu'il manquait un ou deux élèves pour garder l'école ouverte. Mais après ça, on avait perdu notre maternelle, notre prématernelle. Mais là, vous savez, moi, j'engage 20 employés. Il y a des jeunes employés, par exemple, il y a des employés qui travaillaient à l'extérieur. Ils ont vendu leur maison. Ils sont venus loger des maisons neuves à Saint-Antoine. Puis ils sont rendus avec 2-3 enfants à chaque. Fait que c'est rendu qu'on est allé rechercher la maternelle puis la prématernelle. On a rouvert le magasin général. Fait que là, ouais, à Saint-Athanase, on est 308 de population, plus ou moins. Puis on vient d'avoir une belle octroi là, de centre communautaire. C'est presque 3,9 millions d'investissements pour une petite paroisse de 300. Mais 300 personnes de population, il y a un potentiel d'un million d'entailles. Présentement, il y a 750 000 entailles d'exploitation. Le printemps passé, là, c'est presque 11 millions de sirop d'érable qui sort d'une petite paroisse de 300
populations. C'est fait du sirop.
C'est que moi, j'aime bien dire qu'on est sûrement la paroisse qui a le plus d'entailles par rapide. Oh, c'est une fierté pour moi de dire ça. C'est que c'est important, la sériculture. Puis moi, je me débat, vous savez, autant avec le ministère, j'ai eu la chance de recevoir le sous-ministre des terres et forêts hier. J'étais en rencontre avec la ministre au sujet, justement, des problématiques des terres publiques là, pour la sériculture. C'est que moi, que ça soit à n'importe quel niveau, je dis, viens visiter notre usine pour voir c'est quoi l'implication, tout l'investissement, l'impact que ça a sur la paroisse. Parce que bien souvent, on parle à des bureaucrates sans les déprécier.
Non, non, non.
Mais on dirait ils ne peuvent pas savoir jusqu'où s'est rendu la sériculture. Puis tout l'investissement qui se fait, puis la qualité de vie, puis garder, comme on disait tantôt, nos valeurs. Puis si on parle d'une économie circulaire, et ça arrive, regardez, le chandail que j'ai, c'est une petite entreprise de Ville des Julies. Les équipementiers, c'est au Québec. Mon acheteur de sirop, c'est un Prestige qui fait qu'il envoie, je ne sais pas combien de personnes là, au Bas-Saint-Laurent. Les pick-up, les catous, les ci, les ça. Aller partout en région, plus probablement en ville un peu moins parce qu'il y a des grosses industries. il y a des... ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas la sériculture. Au Témiscouata, la sériculture est la première production en importance. Elle a dépassé l'industrie laitière. C'est pas unique banal. Au monde.
Le nombre de fermes cette année ou dans les dernières années a augmenté à cause de l'octroi des contingents, à cause de la sériculture. Bon. Puis c'est une des premières fois depuis des années là, qu'on voit le nombre de fermes augmenter. Ouais. Donc, ce que vous dites, c'est vrai.
La sériculture, ça a vraiment un impact. Là. Puis peu importe le nombre d'entrailles que tu as, ça a un impact là, sur tous les commerces, sur les écoles, sur les... C'est ça qui garde carrément nos paroisses. Vous savez, quand on part sur un trou avec un petit chameau à corps, c'est 15 piastres de revenus. À toutes les fois qu'on va, par exemple, on parle de 40 hectares, mettons sur les terres publiques. 40 hectares, ça correspond à peu près à 10 000 entailles. 10 000 entailles, là, c'est un employé. C'est donner du travail à une personne. Avez-vous vu l'impact que ça a toutes les fois qu'il s'en remet des entailles? Puis, vous savez, juste le dernier agrandissement qu'on a eu, on parle d'un agrandissement de 4 460 avec quelqu'un qui fait une moyenne de 5 livres à l'entaire à 3 piastres, là. On parle de presque 60 000 piastres de revenus. Ça vient consolider ton entreprise. Quand tu as moins d'entailles, c'est 60 000 que tu vas chercher. Là, ça vous allez, allez être important peut-être pour t'aider à payer ton poteau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est super important.
Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens, là, un peu pour nous situer, parce qu'on l'a vu là, dans les médias un peu, les terres publiques, il y a des coupes un peu questionnables qui se sont faites cette année, je pense à la région de Bellechasse, tout ça. On fait quoi avec ça comme société? On voit que la demande de sirop d'érable augmente au niveau mondial. Les arbres, ils ont une vitesse de croisière pour pousser. J'aimerais savoir votre point de vue. Vous êtes en terre publique. Il y a des critiques aussi face à ça, comme si c'était pas juste, puis les terres publiques avaient des avantages. Je suis pas de cet avis-là, mais j'aimerais ça vous entendre, nous faire un peu le point là-dessus. Puis pourquoi c'est important de valoriser la sériculture en terre publique? Vous aimez ça, la foresterie? Vous avez gagné votre vie là-dedans? Hein? Alors, oui. Vous êtes bien placé pour nous dire que c'est pas l'un ou l'autre, mais peut-être que ça pourrait être les deux.
Bien, ta question est très d'actualité parce que hier midi, j'étais avec la ministre des Terres et Forêts. Puis j'étais avec toutes les cascades, l'industriel. Ça, dans le fond, c'est d'avoir un juste partage. Moi, l'inquiétude que j'ai dit à la ministre, j'ai dit, c'est important d'être à une même table pour séparer parce que je comprends que l'industriel, il faut qu'il vive. Mais l'industriel, on va prendre un industriel, par exemple, comme Cascade. Eux autres ont besoin d'un copeau. Nous autres, si on aménage notre érablière, par exemple, quand on fait l'air, on va le sortir. En réalité, c'est juste de la pâte qui sert. C'est que cette pâte-là sert à l'industriel. Mais il faut qu'il y ait un partage juste équitable. Moi, ce que j'ai demandé à la ministre, j'ai dit, j'aimerais ça que vous agissiez comme un bon père de famille ou une mère de famille. J'ai dit, ramenez le monde à la table. Essayer de trouver un juste milieu pour que ça soit équitable pour tout le monde. Vous savez, les terres publiques, là, c'est pas juste les agriculteurs. Moi, j'ai juste un permis pour exploiter. Il y a les chasseurs, il y a les pêcheurs, il y a les industriels. Puis nommez-en, là, il y a bien du monde. Il faut que tout le monde soit assis à table. Moi, même mettons que j'ai de la tubulure, moi, je construis des lignes électriques, je construis des chemins, j'installe de la fibre optique, j'ai 20 km de fibre optique. Moi, j'ai affaire à mes stations de pompage, d'avoir un exemple du Wi-Fi pour que le monde collecte leur téléphone s'ils sont en problématique. Je l'ai offert aux pompiers. C'est que moi, je ne suis pas contre que le monde, mais c'est d'avoir un juste équilibre.
Un équilibre qui fait que ça soit durable.
Que ça soit durable. Puis, tu sais, l'industriel, eux autres, bien, l'industriel, ce qui arrive, bien, le milieu forestier, c'est un milieu d'ingénieurs forestiers. C'est un milieu qui est faite pour les essences de bois, on s'entend. La sériculture, c'est un peu folklorique, puis c'est dur de prendre sa place là-dedans. Fait que c'est bon, c'est là qu'il faut mettre des pressions pour valoriser la sériculture, pour avoir un juste partage
équitable. Ça revient un peu à ce qu'on se disait au début, hein. C'est-à-dire, quand l'industrie acéricole s'est développée, etc., mais il y a un regard peut-être qui n'est pas tout à fait rendu là de la part du ministère quant à ce secteur-là, parce que ça reste folklorique. On réfère encore aux valeurs traditionnelles.
Vous savez, il y a peut-être 5-6 ans, j'ai eu la chance de recevoir le forestier en chef du Québec. Vous savez que le forestier en chef de Québec, lui, est en charge d'un groupe d'ingénieurs pour la planification pour les 5 prochaines années. On l'avait invité au Témiscouata pour montrer l'importance de la sériculture, tout ça. Puis moi, personnellement, j'ai visité, puis je l'ai amené à mon pick-up pour visiter Saint-Athanas, puis la Belle-Forêt, puis tout ça. Le soir, un exemple, puis il a pris la parole à MRC devant peut-être 100, 150 personnes, puis ce qui était déplorable, en tout cas, puis c'est juste montrer un petit peu la mentalité, il n'a pas sorti un mot érable dans tout. Puis on l'avait invité pour... Puis c'est pas qu'il l'a fait de mauvaise foi, là, c'est une bonne personne.
C'est la culture.
C'est la culture qui est vraiment dure, puis il faut travailler à essayer de changer cette culture-là.
Il y a peut-être quelque chose qui est de notre faute comme producteur, parce que justement, tu sais, la fameuse canne avec le cheval, là. Oui. Moi, depuis tantôt, je vous écoute, je me dis, peut-être qu'on est dû pour une nouvelle série de cannes. Tu sais, des cannes éducatives avec un beau concentrateur comme il y a chez vous, là.
Ouais.
Puis avec, expliquer c'est quoi la concentration de la CF. Avec, après ça, la question de... Une belle canne où est-ce qu'on verrait des chalumeaux, là. Pas en forme d'aluminium, là. Des vrais, là. Puis qu'on expliquerait le principe des fuites, puis du vide. Puis de, pourquoi pas avoir des cannes un peu plus éducatives? On peut la garder si le monde l'affectionne, la canne. Mais peut-être se mettre à jour un peu, tu sais, pour... Parce qu'on l'aime, cette image-là, mais elle joue contre nous, là. Ben, il n'y a plus de chevaux dans les érablières. À un moment donné, il va falloir qu'on en parle pour vrai.
J'irais juste qu'à dire, parce que vous savez, moi, je suis un gars qui a bien les dossiers Excel. Pourquoi pour une face de la canne traditionnelle puis l'autre face plus moderne?
Oui, voilà. Voilà. Ben, pourquoi pas?
La transition entre les deux.
Pourquoi pas? Ça peut être un cheval qui tire une osse.
Ben, oui.
Pas trop avec ça. Ça peut avoir un peu d'humour là-dedans.
Ben, moi, je mets force. Écoutez, je mets beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'aller chercher les fonctionnaires, les ramener en forêt, puis démontrer
sensibiliser.
Puis ça, c'est. Ce que vous faites aujourd'hui, ça peut permettre d'améliorer ça. Bien, moi, tant mieux. Vous savez, c'est un peu mon but. Moi, présentement, là, je m'efforce à ça à 100%.
Pour terminer, je vous poserai une dernière petite question. Un jeune, une jeune, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui étaient là dans la sériculture comme copropriétaire, mais qu'on ne voyait pas devant de la scène, qui les prennent. On l'a vu aux journées de la sériculture. Il y a de plus en plus de femmes, c'est bien parfait.
Oui,
alors, une jeune femme, un jeune homme qui démarre en la sériculture, les conseils de base que vous auriez à donner, parce qu'on ne peut pas se priver de ça avant que vous partiez, qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil avec votre expérience à des gens qui démarrent? Les principes qui ont été payants pour vous, là, pas juste payants en argent, mais payants en efficacité, en plaisir, on l'a dit, ça prend du plaisir faire les sucres.
Vous savez, une jeune de mes bonnes amies, Valérie Vignola, c'est une jeune femme qui a 4000 ou 8000 en taille. En plus, c'est elle qui est présidente du club d'encadrement technique, puis elle est vaillante. Il y a les femmes, hein, il y en a là, qui valent deux hommes. Là. Pour les dire que j'en connais.
On le dit juste entre nous autres.
Puis une femme, les femmes en général, ils sont plus précis dans leur travail. Ils sont très minutieux, ils ont une bonne qualité de travail. Puis les jeunes femmes, hein, je pense que c'est aussi vrai pour les hommes, mais s'ils pourraient intégrer des clubs d'encadrement pour aller... Vous savez, un club d'encadrement, là, moi, j'étais 18 ans administrateur, on transfère nos connaissances, on apprend. Moi, il n'y a pas une journée que je n'apprends pas à partager avec, que ce soit avec vous, mais on parle de d'autres producteurs. C'est-à-dire que ces jeunes femmes-là, s'ils pourraient intégrer des clubs, puis aujourd'hui, on s'entend avec Facebook, puis tout ça, il y a des sites, là, qui a des partages entre producteurs qui est super intéressant. Si elle a un problème, elle va aller sur ce site-là.
Donc, se faire un réseau, puis se donner de l'éducation,
ça, il y a des choses qui existent, moi, mais gars, là, puis mes employés sont sur ces réseaux-là, puis quand il y a une problématique, quelqu'un, ils s'entraident entre eux autres. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui partirait aurait tout intérêt à embarquer dans ces réseaux-là.
OK. Puis sinon, donc, votre premier conseil, se réseauter, se former, faire partie d'un club d'encadrement, donc, se donner une éducation. Avez-vous d'autres recommandations que vous donneriez à quelqu'un qui démarre un peu? Parce qu'on l'a dit, ça prend de la passion, c'est pas toujours facile.
Quelqu'un qui démarre, hein, moi, je n'ai un petit peu parlé tantôt, hein. Si, comment je dirais donc, il faut avoir du plaisir à faire du sirop. Si on ne se donne pas des outils pour avoir du plaisir, on va se décourager, puis on va se séparer avec son job ou ainsi de suite. Il faut se donner des outils de travail pour avoir des journées de travail raisonnables, mettons une dizaine d'heures, 12 heures. Mais si quelqu'un arrive et que je ne veux pas investir parce que puis que là, une année, tu te ramasses, tu travailles 15 heures, 20 heures par jour, 7 jours par semaine, puis à la fin de ça, tu es quasiment en dépression, puis que tu as un mauvais printemps, puis que là, il faut que tu te manques d'argent. Même si tu as une passion pour la sériculture, je ne pense pas que ça soit profitable pour personne. C'est-à-dire qu'il faut se donner des outils. Puis moi, en tant que, comment je dirais ça, là, je suis quand même quelqu'un, ça fait longtemps qui fait des affaires. Je ne fais pas toujours à voir à court terme, essayer de voir à long terme. Puis avec la fédération, puis tout ça, bien, ça vient un peu stabiliser les prix, ça vient consolider, ça fait que Vous savez, on peut étendre ça sur 12 ans, sur 15 ans. Puis il ne faut pas voir que parce que je suis endetté de 15 ans, ça ne va pas bien nos affaires. Mais il faut se donner une capacité de rembourser. Puis c'est un peu ça.
Être indulgent envers soi-même. Parce qu'il y a un peu cette mentalité-là, je ne sais pas si c'est d'accord, mais on veut des héros. Hey, moi, j'ai bouilli 16 heures, j'ai fait comme s'il y avait une valeur à ça. Dans le fond, ce que vous dites, c'est des joueurs aux héros, c'est un peu jouer au nono des fois, aussi bien être indulgent envers nous-mêmes, se donner un rythme à plus long terme.
Puis, j'ai eu la chance de faire une conférence pour les MAPAC. Une chose que je dirais, là, c'est que si vous avez des équipements, un exemple, pour faire 5000 en taille, puis que là, une année, que mon voisin est à vendre, il y a 2000 en taille, puis moi, je vais avoir 5000 en taille, mais qu'en réalité, tu n'as pas les équipements pour le traiter. Soit surendetté, soit travailler deux fois plus, prendre le temps d'analyser le contexte, puis 2000 en taille de plus, c'est négatif, c'est pas une bonne décision. Prenez le temps de vous asseoir, allez consulter, puis regardez ça dans l'ensemble. Mm. Parce que le nombre d'entailles, puis je vais dire comme un gars, je suis peut-être pas le mieux placé pour... Mais vous savez, moi, j'ai une entreprise que je peux traiter 300 000 en temps. Et j'ai atteint mon 300 000, bien, on va faire mes livres, puis on va gérer. Là, je vais avoir maximisé mon entreprise. Mais que tu aies 300 000 ou tu en aies 3 000, c'est des équipements pour 3 000.
C'est ça.
Puis, il y a un petit dernier conseil. Si vous achetez un concentrateur, vous avez 3 000, mais vous avez l'idée d'en rajouter 1 000, 2 000, bien, prévoyez qu'il y ait une sortie électrique. Puis il l'ajoute que là, ça va être beaucoup moins dispendieux de rajouter un poteau parce que la machine a été faite. Vous allez dire, oui, mais la machine coûte plus cher si je mets ça. Oui, mais elle va coûter moins cher que s'il faut que tu charges de machine complète, un modif au complet. Ça, c'est un petit conseil, je pense, que le monde
pourrait. Bien, si je résume en terminant, s'éduquer, faire partie d'un club d'encadrement, se donner des outils pour apprendre, être indulgent envers soi-même, puis peut-être pas... finir par être la grenouille qui va avaler le bœuf. Hein? C'est ça. Puis anticiper. Anticiper un petit peu, puis accepter les conseils aussi. Hein? Je pense que c'est ça. Des fois, on veut tout avoir le sentiment d'avoir fait tout par nous-mêmes. Mais moi, quand je vous écoute, ce que j'entends, c'est que vous êtes vous-même dans une entreprise florissante, performante, mais vous êtes encore disposé à apprendre. Moi, c'est ce que je retiens de la démarche. Puis je vous remercie beaucoup, M. Patry. C'est gentil d'être venu nous voir. J'apprécie énormément. Je vous souhaite une belle saison des sucres.
Moi, en terminant, ce que je veux dire, c'est que si j'avais eu le gosse, là, je suis rendu à 50 ans, je suis un peu vieux, là, mais moi, à 20 ans, là, avoir eu le gosse, j'aurais voulu vivre de la sériculture. Ça fait que de voir quelqu'un qui réussit comme vous le faites, c'est inspirant pour quelqu'un comme moi qui a rêvé un jour, peut-être qu'il aurait pu faire ça à temps plein, mais là, bon. Mais évoluer différemment.
Moi, je me calcule vraiment chanceux parce que j'ai de la relève. Puis présentement, je le fais pour ma relève. J'ai mes frères, eux autres n'ont pas eu de relève. C'est qu'en réalité, c'est mes enfants qui ont racheté mes frères. C'est que la chance, je l'ai eue indirectement.
C'est ça.
Mais c'est que ça me permet de continuer ma passion.
Ben oui.
Ouais, puis la vie n'est pas finie. Moi, Marco, j'ai bon espoir qu'il va retomber dans le sirop à temps plein à un moment donné. Il ne sait pas. C'est ça. C'est parce qu'il est sage. Là, il veut se ménager. Il se prépare un petit deuil. Mais moi, je suis pas mal convaincu que la vie réserve encore des surprises. Il y a un voisin à côté qui va être à vendre à un moment donné.
Peut-être. On
ne le sait pas. L'inimaginable est dans la vie. Merci encore beaucoup, M. Patry.
Merci
Marco.
Plaisir.
À la prochaine.
Merci.